livre est une rediffusion.
Littérature sans frontières.
Une terre, une auteur.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour à toutes et à tous. Elles s'appellent Azita, Négar, Sarah. Elles sont médecins, sages-femmes, couturières. Trois femmes, réelles ou inventées, peu importe, parmi tant d'autres qui vivent aujourd'hui sous un régime islamique, réduites à la soumission, assujetties au port du foulard et qui, si elles n'obéissent pas, sont battues, emprisonnées, voire défigurées par l'acide ou tuées, dans une indifférence et un silence effrayant. Nous sommes en Iran, un pays que notre invitée nous raconte depuis 20 ans, une terre natale qu'elle a dû quitter, mais qu'elle ne peut pas oublier. Bonjour Shahrdod Javan.
Bonjour.
Depuis votre premier livre, Je viens d'ailleurs, vous êtes l'auteur d'une quinzaine de publications, romans, essais, pamphlets, en français, qui disent votre passé, votre exil, votre regard sur l'Iran et votre colère. Une colère qui traverse aussi ici votre nouveau texte intitulé « Et ces êtres sans pénis ?» point d'exclamation aux éditions Grasset. Une périphrase pour désigner le mot « femme », ici définie non pas par son genre, mais par son absence d'appareil génital. J'imagine que ce n'est pas de la provocation si vous avez choisi ce titre. Est-ce ainsi en effet que sont considérées aujourd'hui les Iraniennes ?
Effectivement, ce titre n'est absolument pas une provocation. Ce titre se réfère à deux choses très importantes. La première est une raison personnelle, la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre. Il se trouve que ma mère a perdu un petit garçon. Quand son fils avait 11 mois, il tombe malade et il meurt. Ma mère tombe aussitôt enceinte. Cette mère, dans sa douleur inconsolable, pense, croit, et surtout, elle sait, elle est persuadée que Dieu a entendu ses pleurs, sa douleur, a eu pitié d'elle, et que Dieu allait lui rendre son fils merveilleux. Pas un autre fils, non. L'enfant mort allait être gracié dans les limbes et ressuscité dans les bras maternels. Or, l'enfant a eu l'extrême indélicatesse de naître sans pénis. Et cet enfant était moi. Donc, je vous laisse imaginer à quel point cet événement a marqué ma vie depuis l'enfance jusqu'à ce jour. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à laquelle ce titre se réfère, c'est que depuis la nuit des temps, donc beaucoup de pays, la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, dès qu'un enfant était né et qu'on constatait qu'il n'y a pas de pénis, on l'enterrait vivant. En Chine, lorsqu'il y avait par exemple l'enfant unique, beaucoup de parents enterraient leur fille pour se donner la chance d'avoir un fils. En Arabie Saoudite, avant l'islam, on enterrait les fillettes dès la naissance. En Inde aussi. Et même lorsqu'on n'enterrait pas les enfants sans pénis, dès la naissance, il y avait la déception. Même dans les milieux les plus aristocratiques, toute l'histoire de la France, de l'Angleterre nous le montre. Et puis, on réservait à cet enfant sans pénis une éducation, un destin, qui l'a privé de beaucoup d'activités, de beaucoup de libertés, de choisir son destin, sa vie. Donc, de dire que ces êtres sans pénis me semble la chose la plus évidente, et ce titre n'est non seulement pas provocateur, mais il est essentiel et fondamental.
Et c'est donc à partir de cette question fondamentale, en effet, qui touche le monde entier, beaucoup de cultures, et avec vous ici, l'Iran, on en parlera, que s'écrit ce livre. Ce livre, articulé en trois moments forts autour de la condition féminine, avec d'abord cette première partie plus intime, plus autobiographique, où en effet vous nous racontez cette amère expérience que vous avez faite de naître après un frère aîné mort et cette faute, entre guillemets bien évidemment, de naissance. Et je reste encore un instant avec vous, Chadort Javan, sur cette première partie, puisque néanmoins, cela n'empêche pas que vous avez un lien très fort avec votre père, racontez-vous, qui tous les soirs, lorsque vous rentrez de l'école, vous demande de lui lire la presse parce qu'il voit mal. Pourquoi vous et pas un garçon de la famille ?
Mais parce que j'étais la plus jeune des enfants, donc j'avais l'âge où je devais obéir encore. Et d'ailleurs, quand j'ai eu 13-14 ans, je disais non. J'étais assez grande pour dire non, mais à l'âge de 9 ans, donc comme j'avais le malheur d'être une très bonne élève, or mon père qui avait l'âge d'être mon arrière-grand-père, puisqu'il m'a eu à peu près à l'âge de 70 ans, donc m'appelait de sa voix autoritaire et je n'avais pas d'autre choix que de me rendre dans son bureau pour lui faire la lecture de deux quotidiens, comme si c'était Le Monde et Le Figaro, c'était Keihan et Etelot. Et donc, de cette façon-là que j'ai été initiée d'une façon très intime à la politique. Bien évidemment, je haïssais ces heures obligatoires de la lecture. Aussi, j'ai haïssé mon père qui était un homme très autoritaire, mais bon, il était un homme de son époque, qui avait connu Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Il était père comme on peut l'être en France, je dirais 19e siècle. Donc au début, je ne comprenais rien de ce que je lisais, mais après des mois, donc, ou peut-être, je sais pas, première année, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait dans le pays à cause ou grâce à la lecture obligatoire des journaux pour mon père qui perdait la vue.
Toujours est-il que cette pratique précoce et quotidienne, donc, de la lecture des journaux, vous a inoculé d'une certaine façon le virus de l'information, voire une conscience politique très vive, très vite. Et cela vous a d'ailleurs conduit à passer quelques jours en prison, n'est-ce pas, en 1979. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Alors, c'était en fin 80. Mon père a été emprisonné tout de suite, vraiment quelques mois après l'arrivée de Khomeini, par l'ayatollah Talleyrani, que tous les Iraniens connaissent. À l'époque, lui était le bourreau du régime. Et donc, étant, je vais le dire en arabe, le terme « mufsid fil arz ». Mon père a été condamné pour être quelqu'un qui répand la corruption, la corruption dans le sens de luxure sur terre. Et moi, j'ai été arrêtée un an et demi après, car je distribuais des tracts devant mon collège. À l'époque, j'étais au collège.
Et vous aviez quoi, 13 ans?
J'avais 13 ans, oui.
Et vous êtes restée en prison?
Oui, mais vous savez, à l'époque, il y avait des gamines de 12-13 ans qui étaient condamnées à l'exécution. Et dans le journal, justement, le Keihan, ou Etelot, on affichait parfois même les noms. Donc, j'ai eu deux de mes amis qui ont été exécutés parce que toute leur famille était des activistes anti-Khomeini, donc avec leurs parents, ils ont été exécutés.
Est-ce que c'est à cause de cette situation, de votre position dans l'opposition d'une certaine façon, Chadort Javan, que vous avez dû quitter l'Iran pour venir vous installer en
non,
France en 1993?
Non, moi j'ai quitté l'Iran. En fait, parfois les journalistes, je sais pas, ils aiment bien raconter des histoires peut-être. Je n'ai jamais dit que j'ai quitté l'Iran clandestinement. Moi, j'ai quitté l'Iran à l'âge de 24 ans. En avion, et je suis allée en Turquie à l'époque pour demander le visa d'un autre pays.
On a fait un petit détour biographique, mais c'est pour mieux revenir à votre livre, évidemment, Chadort Javan, parce que même après 30 ans d'exil, vous êtes toujours très attentive à toutes ces nouvelles qui viennent d'Iran. Vous continuez de tout lire, tout écouter, tout voir de ce qui se passe là-bas.
Pas tous les jours, mais oui.
Et c'est une parfaite connaissance de la situation, d'ailleurs, qui vous a permis de nourrir le portrait de ces trois femmes, dont vous nous racontez plutôt en deuxième partie l'histoire, sous forme de nouvelles presque. Je le disais, Azita, Negar, Sarah, médecin, sage-femme, couturière, qui, toutes les trois, entre Téhéran et Ispahan, vont payer un très lourd tribut au régime islamique. La honte, le viol, la défiguration, la mort. Est-ce que ce sont trois exemples pour dire le quotidien de milliers de femmes aujourd'hui ?
Alors, je les décris, ces femmes, dans leur vie, dans leurs sentiments, dans leur quotidien, dans leur milieu, dans leur famille. Je suis allée d'une façon très intime pour que les gens puissent les voir, les sentir, partager leurs sentiments. Vous savez, les sentiments sont universels. Et puis, le cas de ces femmes, ce sont des cas récurrents. Il ne s'agit pas d'effets divers, mais il s'agit d'effets réels et très récurrents en Iran. Après la lecture, si les gens tapent sur Internet, par exemple, des femmes emprisonnées parce que elles ont enlevé leur voile, vous allez voir, ça va défiler plein de femmes. Si on enlève le voile dans la rue en Iran, si on se fait arrêter, l'emprisonnement de 10, 15, 20 ans vous attend. Pour juste avoir enlevé le voile. Pas péter le décolleté. Non. Pas mettre une jupe. Non. Pas enlever le manteau. Non. Juste enlever le voile. Selon la loi, c'est un crime condamnable de 10 à 24 ans, parfois 25 ans de prison. Et il y a des filles qui sont emprisonnées juste pour ça. Et pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas de pénis, encore une fois.
Et c'est en effet ici ce que vous illustrez à travers ces trois femmes. Par exemple, Sarah, la dernière, monte en effet à un lampadaire, enlève son foulard.
Alors,
c'est pas
si
un lampadaire.
Alors, si je peux de ne pas dire qui fait quoi, de ne pas dévoiler chaque histoire. Donc, mais par exemple, ce chapitre qui est la poésie de Sarah, c'est une fille qui, vous savez, on parle beaucoup de viol, de l'agression sexuelle, de l'harcèlement sexuel. Il faut quand même ne pas oublier que #MeToo n'a pas contaminé la Chine avec 1,5 milliard, n'a pas contaminé l'Inde avec plus de 1 milliard de population, n'a pas contaminé les pays musulmans, plus de 1,5 milliard de population, n'a pas contaminé les pays d'Afrique. #MeToo n'a pas contaminé non plus, d'ailleurs, pas beaucoup, à quelques exceptions près peut-être, le milieu des musulmans vivant en Europe. Comme si le viol, l'harcèlement sexuel, l'agression sexuelle n'existait pas dans le monde musulman ou en Chine ou en Inde. Or, c'est terrifiant là-bas. Donc, dans la poésie de Sarah, je raconte cette gamine qui se fait violer à 14 ans. Il y a beaucoup de pays où, quand une fille pas de 14 ans, une fille de 9 ans, quand elle est violée, elle pense que c'est de sa faute. Parce qu'on lui a inculqué que cela est sa faute. Que cela est de sa faute. C'est seulement dans la culture occidentale, et cela depuis juste quelques décennies, puisqu'on parle des violences faites aux femmes, violences faites aux enfants, que les enfants, les adolescentes ont appris, ont intériorisé, que le viol ne relève pas de leur culpabilité, ne relève pas de leur responsabilité. Et encore, donc, dans beaucoup de pays, même lorsque une fille, là je décris la fille, je entre dans ses sentiments, le moment où ça se passe, elle se dit, j'aurais dû me sauver, j'aurais dû, alors que c'est une gamine de villageoise de 14 ans, qui ne sait rien de rien, face à un homme qui a 3 enfants. Donc, cela, je le décris, cette violence-là. Et c'est pourquoi ces violences se perpétuent génération après génération.
On va faire une pause, si vous voulez bien, Shador Tojavan, dans cette émission. Vous avez un choix musical, je crois, à nous proposer.
Oui. Alors, pour changer un peu le sujet et apporter un peu de bonheur quand même dans ce monde horrible, je propose une musique merveilleuse de Mohsene Namjoo, un artiste de génie iranien qui a vécu d'ailleurs en France. Maintenant, il vit aux États-Unis, enfin entre les États-Unis et l'Europe. c'est un musicien total. Il compose, il écrit, il chante, il a une voix extraordinaire. Voilà, c'est Mohsene Namjoo que je propose que nous écoutions pour un peu de bonheur.
Maintenant.
Voilà.
Et nous reprenons dans Littérature sans frontières sur Radio France Internationale notre conversation avec Chador Tejavan, avec qui nous parlons de son nouveau roman intitulé « Et ces êtres sans pénis, point d'exclamation », publié aux éditions Grasset. Un texte, on l'a dit en première partie, qui met en lumière la condition des femmes, en Iran en particulier ici, en murée vivante dans un régime de domination masculine. Mais un livre qui interroge aussi l'écriture, la littérature et la langue, comme en témoigne cet extrait, page 171, que vous avez la gentillesse de nous lire maintenant.
L'écriture de ce roman m'est plus difficile que celle des précédents. J'ai dû reléguer le persan pour pouvoir m'emparer du français, pour en faire ma langue, la langue de mon inconscient, de ma psychanalyse, de mes rêves, de mon écriture, la langue de mon imaginaire. Je ne lisais et n'écoutais rien en persan durant les mois d'écriture. Or, depuis un an, je lis et écoute tous les jours les nouvelles en persan, mais pense mes phrases et imagine mes personnages en français. Jamais le persan n'a été si présent dans mon esprit durant les années d'exil que maintenant. Jamais les mots persan ne se précipitaient ainsi dans ma tête pour obstruer la voix du français. Je me sens écartelée, mentalement, émotionnellement, entre le français et le persan. Les mots de mon enfance, de mon adolescence et de ma jeunesse se dressent face aux mots français pour se venger. Deux mondes s'affrontent dans ma tête, devenus un bouillon de langue.
Merci beaucoup, Chador Tejavan, pour cet extrait de ce nouveau roman qui ici souligne la question de la langue et qui a suscité en moi une autre question, à savoir, est-ce que finalement ce choix d'écrire en français et d'être à part entière une auteure française est devenu aussi une source de souffrance pour vous ?
À la fois une source de grande libération, immense libération pour moi, et aussi d'une souffrance immense. Vous imaginez que c'est toujours avec une pointe de quelque chose qui me pince le cœur lorsque, par exemple, je dois ouvrir le dictionnaire ou le Grévis pour voir si ce n'est pas une faute de langue, si ça peut se dire. Vous comprenez ? Parce que comme j'ai appris le français J'ai été initiée à la langue française à l'âge de 26 ans. J'ai commencé à apprendre à dire « Bonjour, je m'appelle Chartorte, j'ai 26 ans, et toi ?» avec les Chinois qui apprenaient le français à l'Alliance française et tout ça. Donc, c'est une langue que je ne... Même si je me suis emparée de la langue, même si je sais m'exprimer dans cette langue, mais je ne saurais jamais totalement, je dirais, libre et totalement en confiance dans la langue française. Et aussi, il y a une autre blessure narcissique. Le fait est que j'ai relégué le persan, ma langue maternelle. J'ai dû même sacrifier ma langue maternelle pour pouvoir devenir un écrivain de la langue française. Moi qui ai tellement voulu devenir française, chaque fois que l'Iran ou le persan me font un croche-pied, je me casse la gueule. Pour moi, l'exil, c'est la langue. L'exil, c'est cet accent que j'ai et qui me dénonce à tous, dès que j'ouvre la bouche. Et cette question qui m'est posée aussitôt, vous êtes d'où ? Ça veut dire que la langue que je parle n'est pas la mienne. Vous êtes d'où ? À chaque fois qu'on me pose, c'est une violence symbolique. Ça veut dire que je ne suis pas française. Ici, je ne suis pas dans mon pays. Et la langue que je parle n'est pas la mienne. Donc finalement, je n'ai plus de langue, je n'ai plus de pays, tout en ayant plusieurs pays, plusieurs langues, bien évidemment. Et je dis que je n'ai plus de langue maternelle, soit je n'ai plus de langue maternelle, soit j'ai une langue maternelle dans laquelle j'ai un accent qui est le français.
Mais il n'y a pas d'accent dans l'écriture.
Eh bien, si, vous savez, tout le monde me dit, vous savez, si je peux lire entièrement mon livre à voix haute, vous allez voir que la tonalité est très chantante. Je fais des phrases souvent à mon insu des alexandrins dans ma prose, parce que le persan est une langue très chantante. Et ce que j'écris, moi, personne d'autre ne peut l'écrire. Pourquoi ? Parce qu'il y a derrière le persan, Farsi. Il y a le turc, il y a l'azéri, il y a l'anglais, il y a l'arabe et il y a un peu d'allemand. Donc, il y a 6 langues derrière. Le français, chronologiquement, est ma 7e langue. Mais pour écrire, je ne peux écrire qu'en français parce que je pense seulement en français. Oui, je peux penser aussi en anglais, mais j'ai du mal à penser en persan. Mais pour la poésie, mon cœur reste persan.
Et vous posez aussi la question de la fiction, sachant que vous avez toujours alterné d'ailleurs pamphlet et roman, et qu'ici vous êtes à la croisée des deux. Mais néanmoins, pour ouvrir la 3e partie de votre livre, vous écrivez, ouvrez les guillemets, « je sors du roman ». Et vous répétez « oui, je sors du roman ». Qu'est-ce que vous entendez par cette déclaration ?
Alors, vous savez, j'écrivais ce livre, notamment le dernier chapitre, le novembre 2019, quand il y avait des manifestations en Iran et que le régime avait coupé l'Internet pour massacrer la population. Et silence total en Occident. Personne n'en parlait. Enfin, quasiment. Libération, quand même, avait fait sa une. Et j'étais anéantie. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Et écrire, échafauder des fictions, écrire. Ça sert à quoi, tout ça ? Pourquoi je rentre pas en Iran, prendre les armes et lutter contre le régime. Et là, vraiment dans cette espèce de désespoir, si j'étais croyante, j'aurais dit que c'était une révélation divine. Je suis pas croyante. Donc c'était une inspiration, mais venue je ne sais d'où. À la fois, je quitte le roman pour entrer de plein pied dans le roman, pour devenir le personnage fictif du roman. Ça veut dire Shador Javan va quitter son bureau de travail, elle va devenir un des personnages du roman, comme si l'espace littéraire était un pays avec des frontières, comme si l'espace littéraire était un espace géographique délimité. Effectivement, il l'est, puisque lorsque vous lisez un roman qui se passe en Chine, vous voyagez en Chine. Lorsque vous lisez un roman historique d'Alexandre Dumas, vous imaginez la France de l'époque. Donc, par cette espèce d'invention absolument qui n'avait jamais été faite, mon éditeur, tous les gens attachés de presse, l'éditeur qui lisent quand même beaucoup, beaucoup de livres, c'est la première fois. Je veux dire que c'était par une espèce de désespoir total.
Alors, si vous voulez bien, je vais expliquer un peu à nos auditrices et à nos auditeurs ce qui se passe, parce qu'il y a un vrai rebondissement. Après avoir dit « je rejette la fiction », vous reconnaissez en même temps que comme la littérature est une revanche imaginaire
contre la réalité,
vous prenez à bras-le-corps cette définition pour cette troisième partie spectaculaire où vous racontez comment vous rentrez, c'est un rêve, en Iran, retrouver deux de vos petites cousines qui sont devenues adultes et même des héroïnes au sens propre du terme, à la fois en créant une communauté, je n'en dis pas plus.
Merci.
Qui va sauver des enfants, les enfants des rues, ça c'est important quand même de le rappeler, 3 millions à ce jour, et qui vont retourner la face politique du pays. Là encore, je m'arrête. Quelle revanche extraordinaire! C'est le pouvoir des mots qui permet de croire à ce scénario de la victoire des femmes?
C'est le miracle de la littérature. Effectivement, je n'entre pas, je ne deviens pas un personnage fictif pour rien. Pas pour peu, non. Je deviens un personnage fictif pour réaliser mon souhait le plus cher au monde. Pour réaliser ce qui m'est impossible dans la réalité. Donc, je veux dire que cette invention, cette imagination, je peux dire, à ce moment-là, m'a sauvé la vie, tellement j'étais anéantie psychologiquement.
Vous avez la certitude de ne pas pouvoir retourner en Iran, Shador Tojalan?
Si, je peux retourner, mais je serai arrêtée dès la descente de l'avion et torturée et voilà, et exécutée très rapidement.
Pour tout ce que vous avez dénoncé?
Pour tout ce que j'ai écrit. Il y a des gens qui ont fait beaucoup moins, qui ont été exécutés.
Est-ce que néanmoins l'écriture de ce livre a soulagé votre colère dont on parlait au début de cette émission, ou finalement rien ne pourra l'éteindre tant que les femmes mourront sous les coups des hommes?
Moi, mon travail, c'est éveiller les consciences, d'interpeller les gens, de les amener à questionner la situation, penser et réfléchir à des sujets importants.
Mais est-ce que ça a un peu apaisé votre colère ou pas?
Il ne s'agit pas de colère. La colère est un mot très faible pour ce qui... Ah, la colère, vous savez, la colère, c'est pas grand-chose. La colère, ou même quand vous vous sentez anéanti, ça ne sert à rien si on n'arrive pas à la canaliser. Ce que fait d'ailleurs la littérature. La littérature sublime les atrocités. Les cas de ces femmes, leur destin bascule parce que elles sont des êtres sans pénis. Et ce qui leur arrive est atroce. Ce que je fais dans mon livre, je rends cette atrocité sans pour autant ôter du degré de l'atrocité de l'événement, aiguisant l'atrocité. Pour que cela vraiment touche les lecteurs, pour que les gens puissent s'identifier, combien même les situations sont éloignées des situations des femmes en France, pour que les femmes ou même les hommes puissent s'identifier à des êtres qui vivent dans ces conditions-là.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Shador Tojalan, d'être venu nous parler avec autant de passion et de talent.
Merci à vous.
De ce roman intitulé « Et ces êtres sans pénis ». Point d'exclamation aux éditions Grasset.
Merci à vous.
Encore.